Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, vous proposent 9 documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. Faculté de médecine à Montpellier, Les Origines. Un documentaire proposé par Radio Campus Montpellier.
La ville de Montpellier accueille la plus vieille faculté de médecine du monde encore en activité. Mais qu'en est-il de la médecine avant la création de cette faculté ? Le professeur Gérald Schenck, anesthésiste, réanimateur au CHU Saint-Éloi, porte-parole de l'association des 800 ans dans la faculté de médecine, et le professeur Thierry Lavabre-Bertrand, hématologue, docteur en histoire, vice-doyen de la faculté de Montpellier et président du comité d'organisation des 800 ans, ont tous deux répondu à nos questions. La faculté de médecine à Montpellier, Les Origines, un magazine proposé et réalisé par Tom Martinez et Océane Roy. Le contexte historique en 1220. Quelle était la place de Montpellier en France ? Comment expliquer qu'elle ait pris ce rôle de centre intellectuel ?
Alors, il y a 1220, il y a 800 ans, on a un contexte qui est révolutionnaire. On est encore au niveau du Moyen-Âge, mais à une période qui est très particulière dans le Moyen-Âge. Certains parlent même d'une renaissance du Moyen-Âge, avec un long 12e siècle, qui précède donc juste 1220. Et ce long 12e siècle, c'est une révolution agricole, une explosion urbaine, une explosion démographique. Dans ce triangle, révolution agricole, explosion urbaine et explosion démographique, on ne sait pas quel a été le premier élément qui a déclenché les autres. Mais il y a un ensemble de contextes avec une météo clémente. Il n'y aura pas de drame météorologique et de famine. Les invasions barbares viennent de se terminer. Et la population européenne va se multiplier, aidée par des progrès fabuleux en agriculture, avec la culture triennale, par exemple, la charrue, etc. Et les villes vont également se développer. Les villes se développant, on a une nouvelle société qui se met en place avec de nouveaux métiers et des individus qui vont se regrouper en communautés. Et ça, c'est particulièrement important au niveau politique, au niveau de la société, puisque avant, on avait un seigneur qui contrôlait des paysans avec un pouvoir très vertical. Et le fait d'avoir des quartiers avec des drapiers qui se groupent en communautés, ça va offrir à ces communautés du pouvoir, et on parlera à ce moment-là d'un pouvoir horizontal. Tout change au niveau de la société. Pourquoi je dis ça ? C'est important parce que cette communauté de drapiers, ou d'artisans, de métiers, on va la retrouver avec les enseignants des universités, avec l'enseignement supérieur. Ça donnera l'universitas. L'universitas, c'est la communauté en latin. Et donc la formation de cette communauté d'enseignants prend racine dans la communauté de métiers, dans le cadre d'une révolution sociale complexe et vraiment à large échelle.
C'est une période qui est une période un peu de basculement, et notamment dans la région de Montpellier, puisqu'on vient de vivre la croisade des Albigeois, qui a vu finalement le pouvoir politique passer au seigneur du Nord contre le Midi, et avec une société méridionale qui reste encore très imprégnée par notamment le catharisme, ce qui fait que l'Église va envoyer un légat, donc un plénipotentiaire, si vous voulez, un délégué pontifical, le cardinal Conrad, qui va être en fonction pendant plusieurs mois dans la région, et notamment passer à Montpellier.
La médecine d'avant. À quoi ressemblait la médecine à cette époque ? Qui pouvait la pratiquer ?
Je pense qu'on a encore besoin de beaucoup de recherches pour savoir quel était l'apport de la médecine à cette époque-là. Et il y a deux types, fondamentalement, de médecine à l'époque. Et comme vous le dites, il y a la médecine académique qui se base sur les écrits. Les écrits d'Hippocrate et de ses descendants, jusqu'à Galien, qui vont être repris ensuite par les médecins perses et arabes. et qui vont développer cette médecine-là, qui est en sommeil en Europe. Puisqu'à partir du Moyen-Âge, la science, la médecine, normalement, sont contenues dans la Bible. Et à part quelques moines érudits qui ont accès à quelques écrits, il y a très peu d'écrits de la Grèce antique qui sont accessibles. La médecine moderne, à l'époque, c'est une médecine arabe et juive. Et à Montpellier, cette médecine arabe va circuler, puisque les écrits vont circuler, via notamment Salerne et le Mont Cassin, qui vont traduire les écrits arabes d'Hippocrate, Galien, etc. Ils vont le traduire en latin, et ça va ensuite circuler à Montpellier. Et puis pareil, les écrits arabes vont être traduits par les juifs en hébreu, puis ensuite en latin, souvent avec des traductions à quatre mains. Donc la médecine arabe se retrouve à Montpellier, et c'est une médecine qui prend en compte Hippocrate, Galien, tous les penseurs de la Grèce antique, mais qui vont être revus avec des siècles de progrès menés par les Perses et les Arabes, et cette médecine-là se retrouve traduite à Montpellier.
Alors, si on reprend historiquement la médecine occidentale, puisque bien entendu, il y a bien d'autres médecines, bien, hein, médecine orientale, etc., on va pas en parler, mais la médecine, disons, occidentale a bien sûr pris sa source. Alors, il y avait des médecins dans les religions, en Mésopotamie, en Égypte, etc. Pour ça, on ne va pas entrer dans les détails. Mais disons que la filière commence très nettement avec la Grèce, et notamment avec Hippocrate, qui finalement laïcise la médecine, qui en fait vraiment une connaissance qui n'est pas une connaissance de type religieux, mais qui est quelque chose qui est une science d'observation, une science de réflexion, qui intègre le savoir philosophique et scientifique qui se développe au cours du temps. Et cette médecine, ce sont surtout les Grecs qui vont dans le monde antique qui vont l'exercer et l'enseigner, y compris chez les Romains, qui s'imbibent finalement de la médecine à partir de la Grèce. Et puis, lorsque l'Empire romain s'écroule, eh bien, évidemment, toute l'élaboration théorique qui avait eu lieu quant à la médecine va finalement régresser considérablement. Et en fait, en Occident, il y aura, par exemple, notamment dans les abbayes, dans les monastères, il y aura des infirmeries, un accueil des malades, etc. Mais une médecine qui sera beaucoup plus une médecine du prendre soin que vraiment une médecine de réflexion, de progrès, etc. Alors évidemment, la médecine arabe va servir d'intermédiaire, en quelque sorte, puisque dans le monde arabe, où il y a d'ailleurs beaucoup de médecins qui sont des chrétiens et également des juifs, mais notamment des chrétiens, il va y avoir d'abord une traduction des œuvres antiques du grec en syriaque, puis en arabe. Et puis, il va y avoir également ces médecins arabes. Alors, quand je dis arabes, c'est tous ceux qui s'expriment et qui diffusent leurs œuvres en langue arabe. Ils ne sont pas tous, on pourrait dire, du point de vue origine des Arabes. Il y a notamment beaucoup de Perses, tels que Avicenne. Mais dans le cadre de cette médecine arabe, il y a aussi une deuxième part, qui est une part, finalement, de progrès, de nouvelles observations qui s'ajoutent à la science antique. Et en fait, la médecine de l'Occident, la médecine du Moyen-Âge, va redécouvrir finalement le monde antique à travers des traductions des auteurs arabes, mais évidemment au prix de beaucoup de traductions, c'est-à-dire du grec en syriaque, du syriaque en arabe, de l'arabe en latin, ce qui fait qu'on est assez souvent assez loin de l'original, sans parler du fait que, bien entendu, dans la médecine antique, on était loin d'avoir la connaissance scientifique que l'on aura par la suite. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la place de la médecine. Alors, à l'époque, il y a un certain nombre d'écoles de médecine qui se sont développées, et notamment à Salerne, au sud de Naples. Mais ce sont des écoles, c'est-à-dire des professeurs qui sont indépendants, qui ont des étudiants qui les rémunèrent, des malades qui les rémunèrent également, mais qui sont indépendants les uns des autres, sans qu'il y ait de reconnaissance officielle de ces institutions, de ces groupements. Et en fait, ce qui va se passer à Montpellier, c'est pour la médecine, c'est ce qui s'est passé aussi à Paris quelques années auparavant, en 1215, pour la philosophie et la théologie, c'est-à-dire le fait que l'Église reconnaît cette association, lui donne un monopole de formation et va également exiger que l'on ait un diplôme une licence pour enseigner et accessoirement pour pratiquer. Et donc, ce qui se passe le 17 août 1220, c'est que le cardinal Conrad, au nom du pape de l'époque qui était Honorius III, va promulguer les premiers statuts qui disent notamment « Nul ne pourra enseigner la médecine à Montpellier s'il n'a été auparavant approuvé par l'évêque de Maguelone. » Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Montpellier est dans l'évêché de Maguelone. Donc approuvé par l'évêque de Maguelone, mais avec le conseil, on pourrait dire technique, d'un certain nombre de maîtres de médecine. Donc, une institution officielle, c'est l'évêque qui signe le diplôme, mais sur présentation du corps enseignant. Et dans ces statuts, en même temps, il y a un certain nombre de données qui sont affirmées, notamment sur l'organisation de l'école, sur le fait que le chef de l'école, qu'on appellera le chancelier, exerce aussi une fonction de juge, on l'appellera d'ailleurs le chancelier juge jusqu'à la Révolution, et en étant le chef de la compagnie, avec un doyen qui est le plus ancien des professeurs et qui va régler un petit peu la répartition de l'enseignement entre les différents professeurs, et puis des règles de déontologie, qu'on peut dire, entre les membres de l'université, c'est-à-dire le fait qu'on ne se pique pas ses étudiants, qu'on respecte et qu'on aide au contraire les collègues à se défendre contre les problèmes extérieurs. Donc vous voyez quelque chose qui est la création d'une entité reconnue par l'État, relativement autonome. Et quand je dis l'État, c'est en fait l'autorité politique et religieuse de l'époque, notamment dans la région, qui est le Saint-Siège. Mais qui donne au diplôme délivré par l'évêque de Maguelone une portée universelle, c'est-à-dire que ceux qui auront été diplômés de Montpellier seront reconnus de façon générale dans toute la chrétienté. Donc on a vraiment une institution qui ensuite va vivre de sa propre vie, se développer sur plusieurs siècles. Alors en 1289, le pape de l'époque, Nicolas IV, essaiera de fédérer tous les enseignements qui existent à l'époque, notamment de médecine, de droit, de théologie, des arts, etc., pour former ce qu'on appelle un studium generale, donc une université multidisciplinaire. Mais en fait, à l'époque, les médecins refuseront quasiment de s'y intégrer. Et jusqu'à la Révolution, on connaîtra donc les médecins sous le nom d'Université de médecine de Montpellier.
Le lien entre religion et médecine. Comment les médecins s'organisaient pour pratiquer leurs activités sans aller à l'encontre des croyances religieuses ?
Jusque à peu près au moment de 1220, le regard que l'Église porte sur la médecine n'est pas un regard négatif, mais n'est pas non plus un regard de fascination. C'est-à-dire que la médecine, c'est un peu un art mécanique, qui est un art utile, mais bon, un peu comme s'il s'agissait de n'importe quel art technique. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que, alors qu'avant 1220, l'Église dit au clergé, et, par exemple, ne perdez pas votre temps à apprendre la médecine, vous êtes là pour le soin des âmes, c'est ça qui est le plus important, etc. Ce qui est vraiment nouveau en 1220, avec ces statuts du cardinal Conrad, c'est que l'Église elle-même, dans les statuts, c'est très net quand on le lit, dit la médecine vient de la terre, mais elle est donc bonne et elle est utile à l'humanité. Et finalement, ce savoir médical qui vient de la terre a vocation à rejoindre finalement le savoir théologique qui lui vient du ciel pour être pleinement une discipline universitaire, c'est-à-dire une discipline intellectuelle à part entière. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que c'est la première, on peut dire le premier exemple très net du fait que l'Église considère que la médecine fait partie des connaissances, on peut dire, scientifiques et nobles, et que le regard change. Alors, évidemment, la pratique de la médecine à cette époque est très loin de ce que ce sera par la suite. C'est-à-dire que, par exemple, on ne se met à disséquer qu'au XIVe siècle. Alors évidemment, la tendance est de dire c'est l'Église qui a bloqué tout ça, etc. C'est aussi l'état d'esprit général de la société et du monde savant. En effet, on considère que, au Moyen-Âge, on considère que tout a été décrit. Donc tout est déjà fait, on n'a pas besoin de perdre son temps à réécrire ou à refaire ce qui a déjà été fait. Et quand on commence à disséquer donc, au XIVe siècle, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup d'erreurs dans les ouvrages de l'Antiquité, et à partir de ce moment-là, évidemment, on va se mettre à disséquer de plus en plus, et on va se mettre finalement à lancer la science médicale de la Renaissance. Et à la Renaissance, vous aurez une coexistence de deux courants. Un premier courant qui va essayer de retrouver la médecine grecque, mais en sachant le grec, et donc à partir des manuscrits grecs, sans passer par les intermédiaires syriaques, arabes et latins. Et puis, d'un autre côté, beaucoup de médecins qui s'intéressent aux sciences naturelles, donc bien sûr à l'anatomie, bien sûr à la zoologie, à la botanique, qui à Montpellier va avoir une place très importante.
La construction des bâtiments. Peut-on vraiment parler de construction ? La faculté a-t-elle toujours été située au même endroit ?
L'université, c'est pas un bâtiment. L'université, c'est une communauté. C'est l'ensemble des règles qui régit la communauté des étudiants et la communauté des enseignants. Alors, je ne sais pas si on peut dire que Montpellier est la plus ancienne université de médecine du monde. Il y a des universités médicales au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Iran maintenant, qui vont se révolter d'entendre ça. Montpellier, l'université de médecine de Montpellier, n'aurait pas pu naître sans tout ce qui a été fait les siècles précédents. Et il y a eu un enseignement supérieur en médecine, déjà qui existait plusieurs siècles avant Montpellier, et notamment aussi à Salerne, plus proche de Montpellier, Salerne en Italie, où il y avait un enseignement supérieur de très haute qualité. Et Montpellier, d'ailleurs, se revendique être la fille de Salerne, puisqu'on a copié au départ l'enseignement dispensé à Salerne à Montpellier.
D'accord.
Mais par contre, la grande nouveauté à Montpellier, en 1220, ça va être que la communauté des enseignants et la communauté des étudiants vont être organisées en termes de fonctionnement juridique. Quels sont les droits et les devoirs de chacune des communautés et quel est le fonctionnement entre eux ? Eh bien, ce système-là va définir l'invention de l'université au Moyen-Âge, qu'on retrouve à Paris pour les arts libéraux et la théologie, et à Bologne pour le droit. On le retrouvera ensuite pour la médecine à Montpellier. Et ce principe d'organisation, presque juridique, hein, contractuel, c'est à l'origine des universités modernes du XXIe siècle à travers le monde entier. Il n'y avait pas de bâtiment. L'université, contre toute attente, ce n'est pas un bâtiment. C'est un ensemble d'individus, les étudiants et les enseignants. Alors, où c'est que l'enseignement se déroulait ? Eh bien, comme avant 1220, au domicile des maîtres, qui avaient des livres. Hein, avant, on n'avait pas Internet, on n'avait même pas de bibliothèque. Et les livres étaient très rares. Et certains savants, certains médecins avaient des livres. Et du coup, les faisaient étudier à des étudiants. Et ensuite, l'après-midi, ils allaient avec les étudiants au chevet des patients. De temps en temps, l'université, c'est-à-dire l'ensemble des individus, devait se réunir pour débattre, pour discuter. C'est l'équivalent des conférences, des lectures actuelles, et puis aussi il fallait ensuite passer des examens pour avoir les différents grades jusqu'au doctorat. Où c'est qu'on se réunissait ? Dans les églises originales de Montpellier, c'est-à-dire Saint-Firmin, Notre-Dame-des-Tables. Saint-Firmin, vous voyez où c'est ? C'est la place Rebuffy, le Rebuffy Pub, que tous les étudiants connaissent, et ben, il y a une plaque avec marqué « Ici se déroulaient les actes de l'université de médecine au Moyen-Âge ». Et le chanoine de l'église de Saint-Firmin était le dépositaire des archives de l'université de médecine. Tous les diplômes, tous les actes de l'université de médecine étaient déposés dans cette église. On est resté des siècles sans avoir de locaux propres, et nos premiers locaux, ce seront en fait des cités U. Le collège de Mende, qui est le collège des 12 médecins dans la rue, vous savez, qui va jusqu'à la Panacée, la résidence d'artistes et lieu d'exposition, il y a le collège de Mende et le collège de Gironde. C'était des cités universitaires qui abritaient les étudiants peu fortunés, qui n'avaient pas d'hôtel particulier avec des serviteurs, etc. Ces étudiants peu fortunés, ils étaient logés dans des bâtiments nourris, logés, mais en plus ils bénéficiaient d'une bibliothèque, de tables de travail, de lecture et même de tuteurs qui les aidaient à travailler. Les premiers bâtiments universitaires sont des cités U. Et c'est qu'à la fin du XVe siècle que des enseignants en médecine vont acheter des bâtiments et créer les premiers locaux propres de la faculté, donc fin XVe siècle. Ça veut dire qu'on est resté 250 ans sans bâtiment propre de l'université de médecine, et ces premiers locaux, c'est la panacée actuelle. C'est cette résidence d'artistes, justement, qui est dans la rue, avec le collège de Mende de Gironde, les CTU, qui était aussi une rue où il y avait beaucoup de domiciles de maîtres. Tout était regroupé dans cette rue.
D'accord. C'est incroyable. En fait, cette date de 1220 n'a rien à voir avec l'inauguration d'un bâtiment. C'est,
non.
C'est la création de ce concept, en fait.
Voilà. C'est quand on dit que c'est la plus ancienne université de médecine du monde, au sens juridique du terme, qui est une invention du Moyen-Âge européen et qui est en fait un ensemble de statuts et de contrats. C'est pour ça que quand une autre, nous on est très serein par rapport à ça, parce que quand par exemple Salerne nous dit non, c'est pas vous, c'est nous, on leur dit show me the paper, montrez-nous vos statuts. Pas de statut, pas d'université, au sens juridique du terme.
Alors il faut être bien clair, les bâtiments dits historiques de la faculté de médecine à côté de la cathédrale ne sont pas les bâtiments du Moyen-Âge. Lorsqu'on fonde l'université de médecine au Moyen-Âge, il n'y a pas de local spécifique, c'est-à-dire que les cours sont faits au domicile des enseignants ou au lit du malade, et les actes publics, les thèses, les délibérations encore de l'université, tout ceci est fait dans les églises ou dans ce qu'on appelle la salle l'évêque, c'est-à-dire la grande salle de réunion du logis montpelliérain de l'évêque de Maguelone, puisqu'en fait les évêques de Maguelone vivaient beaucoup à Montpellier et ils résidaient notamment à la salle l'évêque qui était près de l'église Notre-Dame des Tables actuellement, donc près de l'esplanade, et à la salle l'évêque, donc il y avait une grande salle dans laquelle se déroulait un certain nombre d'actes de licence notamment, puisque c'était l'évêque qui signait, donc le plus simple c'était que ça se passe dans son palais en quelque sorte, que la soutenance se passe. Mais le premier local spécifique acquis par l'université, ce sera la fin du XVe siècle, et qui se trouvait sur l'emplacement actuel de la Panacée. Alors, ce n'est pas le bâtiment actuel de la Panacée qui a été très remanié au cours de l'histoire. C'était, c'était donc sur l'emplacement actuel de la Panacée, donc en haut de la rue d'université, grosso modo, que l'université va se loger, dans un local qui est d'ailleurs un local très petit. Alors, qu'en est-il du bâtiment historique de médecine d'aujourd'hui? Eh bien, en fait, c'est un bâtiment du XIVe siècle qui a été construit sur l'ordre d'un pape d'Avignon, qui était Urbain V, qui était natif du Gévaudan, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de Lozère, si vous voulez, qui était entré chez les bénédictins très jeune et qui avait fait des études de droit, notamment à Montpellier. C'était un juriste de très haute renommée. Et lorsqu'il est élu pape en 1362, tout de suite, il va dire, il va s'attacher à Montpellier et il va vouloir faire à Montpellier donc une fondation universitaire qui sera un véritable collège bénédictin, donc tenu par des moines bénédictins, pour héberger des étudiants de théologie et de droit. Et c'est donc la partie ancienne, la plus ancienne du bâtiment historique de médecine, date de cette époque-là, le XIVe siècle. Et la chapelle de ce collège, eh bien, c'est la nef actuelle de la cathédrale qui date de cette époque-là. Alors évidemment, les bâtiments ont beaucoup souffert après sur les guerres de religion, mais disons qu'on a encore très nettement dans l'architecture d'aujourd'hui idée de ce qu'était ce bâtiment à cette époque-là. Et ceci, donc, va être le siège du collège qu'on appelait Saint-Benoît-Saint-Germain, donc de ce collège bénédictin, jusqu'en 1536. En 1536, on transfère le siège de l'évêché de Maguelone à Montpellier. Et donc il faut reloger les chanoines de Maguelone. Et on pense les reloger à la place des bénédictins. Et quant à la chapelle, elle devient la cathédrale et prend le nom de cathédrale Saint-Pierre à ce moment-là. Mais en fait, très vite après 1536, il y a les guerres de religion. Et il va y avoir notamment deux sièges particulièrement sanglants de ces bâtiments, 1562 et 1567, qui vont les abîmer beaucoup. Hein, on voit encore d'ailleurs des traces des destructions qui ont été produites à cette époque. Et le bâtiment va rester quasiment en ruine pendant un certain temps. Et c'est au début du XVIIe siècle que les évêques de Montpellier qui finalement n'avait plus la salle d'évêque qui avait été détruite par les protestants et qui avait logé ici ou là, se disent ben, finalement on va essayer de restaurer ce bâtiment et ils en font le palais épiscopal. Jusqu'à la Révolution. Et à la Révolution, on confisque les biens du clergé, donc on confisque ce bâtiment. On supprime également les universités en 1793. Et en décembre 1794, on va fonder 3 écoles de santé, une à Paris, une à Strasbourg et une à Montpellier. Et comme celle de Montpellier, finalement, était petitement logée avant, on se dit, bah, ce grand bâtiment qui ne sert plus à rien, on va l'affecter à l'école de santé. Et donc c'est depuis... c'est pas décembre 1794 qu'elle s'y installe, mais quelques mois plus tard, donc au printemps 1795, l'école s'installe dans ce local qu'elle occupe encore aujourd'hui.
Lien entre botanique et médecine. La construction du jardin botanique.
Il est évident que les liens de la botanique et de la médecine sont évidents, comme de la pharmacie. C'est-à-dire que l'étude des plantes, et des plantes médicinales notamment, ce qu'on appelait les simples, parce que ça permettait de faire des médicaments simples à partir d'une seule variété de plantes, eh bien, la botanique a évidemment des rapports pratiques avec la médecine. Mais ce qui est très intéressant à Montpellier, c'est que les médecins montpelliérains se passionneront tellement pour la botanique en tant que telle qu'ils feront faire des progrès considérables à la science botanique en tant que botanique. Par exemple, à la fin du XVIIe siècle, vous avez l'un des maîtres de l'école de Montpellier, Pierre Magnol, qui va mettre à jour le concept de famille de plantes, comme on dit aujourd'hui, les légumineuses, etc., etc. C'est-à-dire de regrouper finalement les espèces de plantes dans un concept un petit peu plus général. Eh bien ça, c'est un concept botanique absolument essentiel, et c'est Magnol qui en a eu l'idée. Alors, à partir de là, le jardin des plantes lui-même. Ce jardin des plantes, le premier qui en a eu l'idée, c'est un médecin qui avait fait une partie de ses études à Montpellier et qui après avait été devenu médecin d'Avignon, peu importe, Pierre Richer de Belleval. Et Richer de Belleval va convaincre Henri IV, en 1593, de créer une structure un peu équivalente à ce qui se passait en Italie, notamment à Padoue, c'est-à-dire de dire que, à partir de la faculté de médecine, on peut créer un lieu dans lequel on va non seulement cultiver les plantes, mais on va, comme il disait, démontrer les plantes. C'est-à-dire, et les démontrer non seulement pour les étudiants en médecine, mais aussi pour le grand public. Donc un lieu d'éducation générale à la botanique, en lien avec l'étude de la médecine. Et ce concept à Montpellier va rester très présent, puisque depuis Richer de Belleval, tous les directeurs, à l'époque on les appelait les intendants, mais tous les directeurs du Jardin des Plantes sont des professeurs de la faculté de médecine. Et c'est à ce titre donc qu'on m'a demandé de m'en occuper, alors que je ne suis pas botaniste de formation. Mais, et il est certain qu'au cours des âges, il y aura de grands botanistes qui exerceront des fonctions au Jardin des Plantes. Par exemple, un des plus grands botanistes de l'histoire, Augustin Pyramus de Candolle, sera directeur du Jardin des Plantes de Montpellier de 1808 à 1816. Et c'est à Montpellier qu'il d'ailleurs, il va élaborer des parties essentielles de son œuvre de botanique.
Ce que l'on célèbre, ce n'est pas simplement l'anniversaire d'une faculté de médecine. On célèbre ce jour où, pour la première fois, la médecine a été considérée comme une science, un savoir, au même titre que la philosophie, le droit, avec une portée universelle. Ces mots du professeur Thierry Lavabre-Bertrand concluent notre magazine et expriment l'importance de la faculté de médecine pour la ville de Montpellier.
C'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier, proposé par les radios du CRLO de Montpellier en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.